Que le Seigneur soit béni. J'ai à cœur de partager une orientation de prière un peu spécifique, mais que le frère a déjà ressenti et exprimé. Vous êtes sensible évidemment aux derniers événements au Moyen-Orient. Et puis, il est bien évident que nous ne voulons pas oublier les frères et sœurs dans l'intercession, les frères et sœurs qui sont dans des pays persécutés ou dans des pays qui sont touchés par la guerre, parfois persécutés et en guerre. Parfois, il y a ce double problème dans certains pays, notamment comme l'Iran, dont nous avons entendu encore parler dans le cadre de l'AEP ce dimanche. Il y a évidemment, à la lumière des événements, besoin de prière, nous avons besoin d'intercéder, mais je crois qu'il est extrêmement important de bien considérer toujours attentivement la parole de Dieu avant de prier, parce que la parole va toujours aiguiller notre prière, elle va nous inspirer afin que nous prions avec précision et avec efficacité. Voilà, je voudrais vous parler, vous pouvez mettre « Soutenons l'Église en Iran », appel à la prière pour l'Iran et pour le Moyen-Orient, puisque c'est toute cette région qui, à nouveau, est embrasée et enflammée dans le conflit. Ça a commencé entre Gaza, enfin ça a recommencé il y a quelques années entre Gaza et Israël, mais on sait maintenant que, à la lumière des événements dont vous avez été témoin dans les actualités, qu'il y a de nouveau de réels conflits, de réelles menaces dans ces pays du Moyen-Orient et notamment avec l'Iran. Vous pouvez mettre l'image suivante, je n'ai pas la télécommande, mais il n'y a que deux images. Nous n'oublions pas évidemment que l'Église, c'est ce que je vous ai partagé dans les dimanches précédents, on en parlera encore souvent ensemble. L'Église a deux dimensions, si vous me permettez de le dire ainsi. Il y a l'Église avec un E majuscule qui est l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés de tous les siècles et de tous les temps à la surface de la terre entière. C'est l'Église avec un E majuscule, c'est l'Église universelle, et là c'est de cette Église universelle dont évidemment nous sommes membres, c'est cette Église universelle que nous ne voulons pas oublier, c'est d'elle dont il est question ce soir. Et quand par exemple dans 1 Corinthiens 12, 26, l'apôtre Paul dit, il rappelle que l'Église est un corps, c'est autant au sens de l'Église universelle qu'au sens de l'Église locale. Et quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent, mais quand un membre souffre, c'est tout le corps qui est concerné et qui ressent par compassion la souffrance des autres membres du corps. Mais ça, c'est valable autant à l'échelle de l'Église locale, de notre Église, de n'importe quelle Église locale en France et dans le monde, mais c'est aussi valable à l'échelle de l'Église avec un E majuscule, l'Église universelle. Et là, ce sont nos frères et nos sœurs, au même titre que vous et moi, nous sommes frères et sœurs, mais ce sont nos frères et nos sœurs, et nous sommes évidemment, logiquement, nous sommes évidemment concernés. Et je pense que c'est bon, de non seulement à la lumière de l'actualité, mais aussi à la lumière de ce que nous avons entendu dimanche avec l'action en faveur de l'Église persécutée, le frère qui nous a visités, de pouvoir aussi cibler notre intercession, et puis de bien se tenir informé, et puis simplement, comme dit l'Épître aux Hébreux, je ne l'ai pas remis ici, de se souvenir de ceux qui sont persécutés, de ceux qui sont dans les manques, dans les pénuries. Vous pouvez mettre la dernière image, frère, merci beaucoup. Il y a des sujets de prière, mais je voudrais que tous ces sujets de prière, on les comprenne à la lumière de l'Écriture, et je voudrais qu'on fasse une lecture dans l'Évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on va prendre les versets 4 à 14, s'il vous plaît. Matthieu 24, les versets 4 à 14. Jésus leur répondit, prenez garde, alors bien sûr c'est Matthieu 24, Marc 13, il y a aussi l'équivalent dans Luc, c'est ce qu'on appelle vraiment cette prophétie de Jésus sur la fin des temps, qui brasse une période extrêmement large. Mais on ne va pas faire un sujet, on ne va pas faire une étude de l'Apocalypse ce soir, mais on va considérer des éléments clés que le Seigneur nous livre au sujet des temps de la fin. Jésus répondit, il parle à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez, c'est peut-être ce qui nous concernera un peu plus dans l'actualité et ce soir par rapport à l'Iran, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés car, et ça c'est intéressant, une toute petite phrase, mais ce n'est pas une phrase pour une phrase qui m'a toujours interpellé. Il faut que ces choses arrivent. Donc, je ne peux pas prier pour que ça cesse. Je ne peux pas prier pour que ça s'arrête. Mais ça ne sert à rien, honnêtement. Je ne peux pas prier pour la fin des guerres. Je ne peux pas prier pour la fin dans le monde. Je ne peux pas prier pour que le Seigneur stoppe ce déchaînement de folie et de violence sur les chrétiens qui sont répudiés. Je ne peux pas. Je peux le faire, mais ça ne sert à rien. Jésus est clair. Et il faut comprendre ensuite comment on peut accentuer, comment on peut orienter de façon la plus efficace possible notre intercession en harmonie avec la parole, puisque Jésus a dit « Il faut que ces choses arrivent ». Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, verset 11, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, l'injustice se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Et à partir du verset 15, Jésus est encore en train de parler des signes de la fin des temps, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus apocalyptique, avec la venue de l'impie, de celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, l'Antichrist, etc. etc. Mais ce ne sera pas mon sujet ce soir. On peut comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur a mis en évidence des signes. Et les récents événements, les signes qui sont les signes précurseurs de sa venue. Et les événements, les récents événements encore, sont une nouvelle preuve quand nous voyons l'actualité se dérouler sous nos yeux. Ces événements sont une preuve que la Bible déjà est infaillible, autant par les prophètes que parce que les prophéties que Jésus a apportées lui-même, ici en l'occurrence Matthieu 24, de ce que l'apôtre Paul aussi apportera au sujet de la fin des temps, que nous sommes dans la fin des temps, nous sommes en train de voir sous nos yeux, quand nous voyons l'actualité, nous voyons les signes de la fin des temps s'accomplir en vérité sous nos yeux. L'Écriture nous révèle, ici, Jésus va mettre l'accent ici sur 5 signes annonciateurs de sa venue, des signes qui vont précéder son retour. Le premier dont Jésus parle, c'est que personne ne vous séduise. Le premier, c'est la séduction spirituelle. Plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et bien que, en réalité, les faux prophètes, les esprits séducteurs, les doctrines de démons, les fausses doctrines en tout genre, ne constituent pas, comme l'ensemble des autres signes, ne constitue pas un fait nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est plus la multiplication. C'est plus cette espèce de nébuleuse religieuse à la surface de la terre, la multiplication des religions, la multiplication des fausses doctrines, la perversion parfois très subtile, même dans certains milieux dits chrétiens, de la saine doctrine, la falsification de Christ et de la doctrine. Il y a cette espèce de confusion et on voit que effectivement le diable est à l'œuvre et même s'il n'a pas attendu la fin des temps pour semer la confusion, on voit qu'il y a de plus en plus de confusion. Et c'est pareil avec l'ensemble des signes qu'on va énumérer. Ce n'est pas le fait en lui-même qui constitue un signe. Parce que là, en l'occurrence, déjà avant la venue de Jésus, le diable semait déjà la confusion. Après l'an 96, lorsque le dernier livre, l'Apocalypse, est rédigé par Jean sur l'île de Patmos et que le canon biblique est clos et définitivement clos, le diable ensuite, dès le deuxième siècle, on a vu une profusion de littérature, de pseudo-évangiles, de littérature religieuse qui amène de la confusion, qui était censée parfois amener des précisions sur l'enfance de Jésus, on a eu l'évangile de Jacques, on a eu l'évangile de Marie, et il y a eu avant et surtout après la clôture du canon biblique, il y a eu des dizaines d'écrits qu'on a appelés des écrits apocryphes, des écrits en réalité, enfin deutéro-canoniques, mais des écrits apocryphes de façon générale, qui en réalité étaient là pour semer de la confusion. Donc la confusion spirituelle, elle n'a rien de nouveau. Sauf qu'elle est en train de s'accélérer, de s'accentuer. Et quand on regarde le paysage religieux de ce monde et les affrontements, et au-delà des affrontements, même cet œcuménisme grandissant qui va nous amener à la grande prostituée, monter sur le dos du dragon qui s'enivre des martyrs de Jésus, quand on voit cette montée aussi à la fois des religions, des fausses doctrines et aussi de l'œcuménisme, ben on s'aperçoit que c'est ça. C'est cette montée en puissance, en vérité, qui constitue réellement un signe, la séduction spirituelle. Et puis, ensuite, le Seigneur parle tout de suite de guerre. On pourrait dire, frère, la guerre entre Israël et le Moyen-Orient, ça n'a rien de nouveau. Déjà, dans l'histoire de l'humanité, les guerres, il y en a toujours eu. Déjà, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire d'Israël, il y a effectivement toujours eu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire au final quand Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, pardon. » Au final, ça a toujours été. Et bien que beaucoup pourraient dire que l'humanité a toujours connu des conflits en tout genre, des royaumes, des nations, bien sûr, ce qui est vrai. Cependant, là encore, ce ne sont pas les guerres en elles-mêmes qui constituent le signe. Ce qui va être d'autant plus interpellant pour nous, c'est cette recrudescence, c'est la multiplication des conflits à la surface de la terre, la multiplication des conflits armés et l'intensification des conflits. Et il faut, Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Donc, même en tant que chrétiens, alors que nous sommes des instruments de paix et que nous soupirons effectivement après la paix, nous savons pertinemment qu'il ne peut pas y avoir ici-bas dans ce monde, il n'y aura pas de paix sans le prince de la paix. Je lisais il n'y a pas longtemps un article, une demande de prière qui était « Somme toute plein de bonne volonté ». Mais dans lequel on incitait les chrétiens à prier pour qu'il y ait de la liberté. Pardon, il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas de liberté sans le prince de la paix. Le monde entier, sauf ceux qui ont été régénérés par Jésus, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc je peux prier pour qu'il y ait de la liberté en Iran. La liberté ne viendra pas en Iran, pas plus qu'ailleurs, parce qu'il y a des puissances ténébreuses qui sont à l'œuvre. Et je n'oublie pas que Jésus dit que le monde, Paul le montre clairement aussi, le monde entier jouit sous le joug du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire de Satan lui-même. Donc il y aura des guerres, c'est inévitable. On voit aussi que là, par rapport aux événements récents, il est encore question du Moyen-Orient. Et je lis simplement pour vous, ça rentre dans le cadre de « il faut que ces choses arrivent ». Il y a tellement de prophéties qui sont extrêmement pertinentes et extrêmement passionnantes dans la parole de Dieu, mais notamment celle-ci, pour ceux qui notent ou ceux qui veulent l'ouvrir rapidement avec moi, Zacharie chapitre 12. Au sujet de Jérusalem, c'est-à-dire pour désigner Israël à ce moment-là. Vous pouvez l'ouvrir avec moi finalement, afin de bien comprendre que c'est en réalité, le Seigneur est clair, c'est un problème, comme la faim dans le monde, comme les inégalités, les guerres, la séduction, la persécution, les injustices. La guerre en Israël est un problème qui ne trouvera jamais de solution durable. Il y aura une fausse solution. Il y aura une pseudo-paix pendant un temps, juste pendant 36 mois, 42 mois, pendant 3 ans et demi, sous le règne de l'Antichrist, il y aura un ersatz de paix, il y aura une fausse paix. Et ensuite, il y aura ce déferlement de l'Antichrist contre Israël pendant 3 ans et demi encore, ce qui sera les 7 ans de la 70e semaine de Daniel. Ensuite, le retour du Seigneur. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas, au problème du Moyen-Orient, il n'y aura pas de solution avant le retour de Jésus. Il n'y aura pas de paix sans le prince de la paix. Et Jésus va même plus loin, puisqu'il dit, Zacharie chapitre 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem, et bien plus que Jérusalem, c'est toute la question d'Israël, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour. Nous sommes le 2 mars 2026, de quoi parlons-nous encore ? Israël, l'Irak, l'Iran, le Liban, le Qatar, les pays d'alentour, et nous parlons encore d'une même situation, d'un même conflit qui n'a jamais trouvé de solution, qui n'en trouvera jamais, qui va simplement avoir non pas des périodes de paix, mais des périodes un peu comme d'accalmie. Mais c'est un volcan, on sait très bien que c'est un volcan qui est en sommeil, on sait très bien que le Moyen-Orient, c'est une poudrière, et que par moments, comme un volcan, ça peut se calmer un petit peu, mais le feu gronde en dessous, et puis ça repart. Et c'est toujours par vagues, comme ça, successives, parce que Jésus a été clair. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Quand on regarde, bien aimé, à la lumière de l'histoire, en général, l'histoire d'Israël, et plus particulièrement depuis le 14 avril 1948, date de la création miraculeuse, certes c'est vrai, de l'État d'Israël, mais depuis 1948, vous prenez n'importe quel responsable politique ou religieux de cette terre, tous les grands hommes politiques de cette terre, que ce soit au niveau des États-Unis, les plus grands hommes de ce monde qui ont essayé de régler, ils se sont collés à la question d'Israël et ils ont essayé de régler ce problème israélo-arabe, ils se sont tous, pardonnez-moi l'expression, les uns après les autres, ils se sont tous cassés les dents dessus. Personne ne peut trouver une solution à ce problème. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique ici, annoncé par le Seigneur lui-même. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante. C'est extrêmement lourd. Et au fur et à mesure de l'histoire, c'est récurrent. Et tous les États, les nations, les hommes politiques qui, dans leur meilleure volonté, essayent de prendre cette pierre qui est Israël dans l'histoire du monde et des nations et de la déplacer pour en faire quelque chose, tous ont échoué et tous encore échoueront. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ce sera un poids, et c'est un poids terrible, pour toutes les nations, et tous ceux qui la soulèveront, c'est-à-dire tous ceux qui vont essayer de régler le problème, je paraphrase, pardonnez-moi, mais je le redis volontairement, tous ceux qui la soulèveront, tous ceux qui essayeront de régler le problème seront meurtris, ils se casseront les dents dessus. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Là, en l'espace d'une phrase, le Seigneur a fait un bond en avant pour montrer ce moment où l'Antichrist, lui, rassemblera des armées énormes qui viendront de l'Est, des millions, des centaines de millions d'hommes qui viendront pour essayer vraiment cette fois-ci d'exterminer Israël. Mais comme dit le livre du prophète Jérémie, à ce moment-là, lorsque Israël sera vraiment acculé entre la mer et les armées de l'Antichrist, à ce moment-là, comme dit Jérémie, merci Seigneur, ils lèveront les yeux au ciel, ils invoqueront enfin celui qu'ils ont percé. Et Romains 11 dit, et tout Israël sera sauvé, parce que ce sera Apocalypse 19, ce sera le moment du retour en gloire de Jésus, avec ses armées, avec ses miens, et avec nous, ses saints, qui auront été enlevés au préalable, et nous reviendrons avec lui. Israël, Jérusalem, le Moyen-Orient, c'est une pierre pesante. Le seul moment où il y aura, c'est une fausse paix, une pseudo-paix. Ça ne durera pas longtemps. Comme je vous l'ai dit, c'est juste pendant 3 ans et demi, c'est la première moitié de la 70e semaine de Daniel, les 7 ans. C'est la première moitié pendant 42 mois. Là, pendant ce temps-là, l'Antichrist, il fait des courbettes à Israël. Il va, à cause de sa puissance militaire, économique, à cause des miracles qu'il pourra faire, à cause de la séduction qu'il amènera, il aura différentes façons de séduire les nations, mais surtout de séduire Israël et très 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 probablement à 99,9% la construction du troisième temple qui est prête. Aujourd'hui, les plans du troisième temple sont prêts. À partir du moment où Israël aura le feu vert, avec les moyens d'aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, ils peuvent construire le nouveau temple, rebâtir le temple et réinstaurer le système sacrificiel. Parce qu'eux, ils sont encore dans l'Ancien Testament. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est écrit que l'Antichrist, lui, quand il va s'asseoir dans le temple de Dieu et qu'il va se proclamer lui-même Dieu, il fera cesser l'offrande et le sacrifice. Parce qu'il va séduire Israël, et très probablement avec la question du troisième temple, ça va être une prouesse, mais ce sera fait par la puissance de Satan, des ténèbres. Comment est-ce qu'il va faire? Quand on a vu Israël, quand on a vu le dôme du rocher, quand on a vu la configuration du temple, on se dit, mais là il y a une mosquée, comment ils vont faire pour construire le troisième temple? Mais l'Antichrist, lui, il amènera par la puissance de Satan une solution qui va les séduire. Et quand ils seront séduits, à ce moment-là, il va y avoir toute une phase de 3 ans et demi où ils seront très bien. Mais ensuite, au bout de 3 ans et demi, c'est écrit, je le dis, je paraphrase, l'Antichrist enlèvera son masque, il se débarrassera de la grande prostituée, parce que la religion de l'Antichrist, ce n'est pas les religions, ce n'est pas l'œcuménisme, la religion de l'Antichrist, c'est lui-même. Satan a toujours voulu être adoré. L'Antichrist voudra être adoré lui. Et il exigera qu'ensuite les gens de la terre aient la marque de l'Antichrist sur leurs mains ou sur le front et qu'ils adorent l'image de la bête, qu'ils adorent l'Antichrist. Et en réalité, à ce moment-là, c'est là que Israël rentrera dans des répercussions, dans des tribulations, des persécutions sans précédent. J'ai juste fait cette petite parenthèse. Le verrons-nous? Nous le verrons peut-être, peut-être pas. À quel moment ça arrivera? On n'en sait rien. Il y a encore des temps devant nous. On sait qu'ils s'accélèrent. Mais Jésus a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu nous garde d'essayer de le trouver. Ce n'est pas notre but. Mais on sait pertinemment qu'il va y avoir ce moment où Israël sera séduit. Et les nations seront aussi séduites. Et c'est très probablement dans ce contexte que l'apôtre Paul dit à un moment, si vous avez lu aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, c'est parce qu'à ce moment-là, le problème israélo-palestinien, le problème israélo-arabe sera soi-disant résolu.
Une grande ruine les surprendra, et c'est là que l'Antichrist enlève son masque et qu'il va montrer son vrai visage. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, et très régulièrement, bien aimé, c'est normal, j'insiste, Jésus dit bien, il faut que ces choses arrivent, ça se produira très régulièrement. Et là encore, c'est une fois de plus sous mes yeux, on est en train, pardonnez-moi, à l'échelle internationale, on est en train de pédaler dans la semoule, on est en train de s'enliser, de s'enfoncer, il n'y a rien qui se décante, le problème revient et revient toujours régulièrement sur le devant de la scène, mais il revient toujours avec de plus en plus de puissance et de plus en plus d'intensité. Pas seulement à ce niveau-là, mais aussi à l'ensemble de la planète, des guerres et des bruits de guerre, royaume contre royaume, nation contre nation, sans compter tout ce qui concerne les guerres civiles, les guerres ethniques, etc., etc. On sait aujourd'hui que s'il n'y a jamais eu autant de séductions spirituelles qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de guerres qu'aujourd'hui. Et c'est ça l'élément qui nous montre que les temps s'accélèrent, que la nuit s'épaissit et que nous allons de plus en plus vers la fin des temps et, béni soit Dieu, vers le retour de Jésus. Amen. Et puis vient aussi, parce qu'on peut prier pour ces pays qui sont touchés évidemment par la guerre, puisque on a des frères et sœurs qui sont dans ces pays-là. Dans tous ces pays, dans tous ces endroits, vous avez des chrétiens, et même le frère vous l'a rappelé, nous l'a rappelé dimanche, bien plus qu'en France, ils sont bien plus nombreux. Plus ils sont persécutés, plus l'Église grandit. Et en réalité, dans tous ces pays, il y a évidemment des bien-aimés, il y a des persécutions. Et Jésus dit bien ici, c'est le troisième signe, après la séduction, après les pénuries, les pauvretés, la famine, les guerres, pardon, il y a la persécution chrétienne. Ah, j'ai oublié, pardon, séduction, les guerres. Oui, il y a aussi la question des désordres climatiques, les pénuries, la pauvreté, les famines. Jésus dit bien, il y aura des famines et des tremblements de terre. Juste une parenthèse là-dessus. Ça aussi, c'est très important au niveau de l'actualité. Plus on avance dans l'histoire de ce monde, plus il y a un écart entre les inégalités. Plus les riches deviennent riches, plus les gens qui malheureusement sont dans des pénuries sont en train d'être dans des pénuries. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à la lumière de ce qui a été dit dans les actualités, mais ça aussi c'est extrêmement instructif. Depuis le Covid, il n'y a jamais eu autant de misère, de gens qui sont dans des difficultés financières, matérielles, dans toutes sortes de pénuries, pas seulement dans le monde. En France aussi, jamais les riches n'ont été aussi riches. Et jamais les gens qui ont été atteints par les pénuries, la pauvreté, les famines, en France et dans le monde, n'ont jamais été aussi nombreux. Tout n'a fait que s'accélérer. Ça, évidemment, ce sont encore, bien sûr, les conséquences des inconséquences humaines. Séduction, guerre, désordre climatique, pénurie, pauvreté, famine. Et puis, on arrive à la persécution. Jésus dit bien, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. Et là encore, on peut se dire pareil, pareil. La persécution n'a rien de nouveau. Vous lisez le livre d'Esther, vous regardez l'histoire du peuple juif, vous regardez l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Église a été très très fortement persécutée. Acte 1-8, le frère nous faisait remarquer dimanche à juste titre, acte 1-8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, martus, martyr, c'est-à-dire que la puissance de l'Esprit vous donnera même la capacité d'aller jusqu'au sacrifice de votre vie si c'est nécessaire. Et acte 8-1, survint à Jérusalem une grande persécution, etc., etc. Et tout de suite après la Pentecôte, on s'aperçoit que la persécution est présente et puis qu'elle va en s'intensifiant. Vous pouvez lire n'importe quel rapport, que ce soit de Portes Ouvertes, de l'AEP, de n'importe quel organisme qui travaille en faveur des chrétiens persécutés, je ne parle pas seulement des zones de guerre, mais des chrétiens persécutés, tous les ans, si vous suivez l'évolution sans exception, on ne parle pas de toutes les décennies, ce n'est pas tous les 10-20 ans, c'est tous les ans que le nombre de chrétiens persécutés, avec différentes formes de persécution, à différents niveaux, à différentes intensités de persécution, mais le principe de la persécution, on s'aperçoit que chaque année, ce sont pas 100 ou 200 personnes de plus. Chaque année, ce sont des millions et des millions en plus. On était à 300 millions dans le monde. On est passé à 320, 330, 340, 350, 360, 370 l'année dernière. Et cette année, le frère nous disait à juste titre avant-hier, oui, cette année, 300, quasiment 390 millions, on est bientôt à 400 millions de chrétiens dans le monde, qui d'une façon ou d'une autre, ils ne sont pas tous exécutés. Mais vous avez vu les différentes formes de persécution, bientôt 400 millions, vous vous rendez compte ? 400 millions dans le monde qui, d'une façon ou d'une autre, sont persécutés parce qu'ils confessent Jésus-Christ. Et c'est là encore qu'est le signe de la fin des temps, c'est dans l'intensification et dans la multiplication, évidemment, de la persécution à travers le monde. On vous livrera au tourment quand Jésus emploie ce mot tourment. Tourment traduit le grec klipsis, qui signifie littéralement persécution. Ou alors encore souffrance ou oppression, il y a différentes formes. Mais effectivement, Jésus est très clair et ce mot tourment, quand le frère dimanche, je ne dis pas le nom parce que le message est enregistré ce soir, vous savez qui c'est, mais quand le frère nous parlait de ses voyages et de ce qu'il a vécu, il nous montrait les différents pays et les différents endroits où effectivement il y a de la persécution, de la souffrance, de l'oppression. Mais là aussi, c'est réellement le principe de la multiplication, l'intensification de la persécution qui fait que nous avons sous nos yeux, à chaque signe, nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir. Séduction, guerre, désordre climatique, pénurie, pauvreté, famine, persécution chrétienne. Et puis on comprend que c'est là qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, et puis de prier pour les besoins, pas seulement matériels, mais pour les besoins spirituels de ceux qui sont dans des pays en guerre ou des pays qui sont persécutés, des besoins spirituels, où on sait que c'est ce que nous inspire la prière de Jésus lorsqu'il a dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer par le crible, pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Et ce déferlement de signes que nous venons d'énumérer, on le sait, Jésus le dit clairement, va être le terrain favorable de l'apostasie. Plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Le verbe succomber ici, quand Jésus dit plusieurs succomberont, le verbe succomber traduit littéralement un mot qui signifie scandaliser, trébucher. C'est-à-dire que dans ces choses-là, il y a, et c'est pour ça qu'on doit prier pour notre foi, qu'on doit prendre soin de notre foi autant que possible, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'on prie pour la foi et la fidélité dans l'épreuve, la foi de nos bien-aimés, c'est pour ça que nous prions pour eux, parce qu'à la lumière de ces signes, si on perd de vue les prophéties bibliques, si on perd de vue le message de l'Apocalypse, dont le premier, le plus beau des messages, c'est Jésus est assis sur le trône avec tout pouvoir et il règne. La révélation de l'Apocalypse, avant d'être la révélation de la fin des temps, l'Apocalypse est d'abord la révélation de Jésus dans sa gloire, afin d'amener un message de réconfort, de paix, d'espérance, pour rassurer les bien-aimés qui vont passer par toutes sortes de tribulations, parce qu'ils peuvent être scandalisés, plusieurs succomberont, ils pourront trébucher, et voyant des signes et des souffrances que peut-être ils ne comprendront pas, parce qu'ils ne seront pas à la lumière de l'Écriture, ils y trouveront une occasion de chute.
Et c'est là que le Seigneur dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira, ils pourront même se trahir les uns les autres.
Alors c'est totalement pertinent de prier pour la foi. C'est simple, mais c'est extrêmement pertinent et c'est même totalement indispensable. Plusieurs pourront trouver dans ces douleurs une occasion d'abandonner la foi véritable. Mais aussi, merci Seigneur, ça, c'est la folie de Dieu. La Bible me dit, de la première à la dernière page, de différentes façons, que c'est toujours dans le pire que Dieu a suscité le meilleur. Ah, on ne réfléchit pas comme lui, hein, je sais, hein, moi aussi j'ai du mal. C'est toujours dans le pire que le Seigneur va susciter le meilleur. Le frère disait à juste titre, je l'ai dit dans toutes les églises où je suis passé, tous les frères le savent, tous les frères le disent. Le mouvement des ADD aujourd'hui, il contient 40 000 chrétiens nés de nouveau. Je sais pas, je suis, t'es né un petit peu après moi, toi, mais ton père est pasteur. T'as entendu ton père, j'ai entendu mon père. Dans les années 80, dire, on est 40 000. On est en 2026, on est toujours 40 000. Les évangéliques en France, tout mouvement confondu, allez, 500 000, 700 000, 1% de la population française. On est libre, 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 mais alors libre, 1% de la population française. En Iran, plus on leur met de pression, plus il y a de miracles, plus il y a de guérisons, plus il y a de foi, plus il y a de nouvelles naissances, plus il y a d'églises qui se créent, plus l'église grandit en qualité et en quantité. Je parle de l'Iran parce que là, effectivement, c'est l'actualité. Mais vous prenez tous les pays qui sont persécutés, partout où l'église de Jésus est persécutée, il y a une croissance qualitative et quantitative. À partir du moment où, certes, à la Pentecôte, il y a cette effusion de l'esprit magnifique avec les 3000 âmes le jour de la Pentecôte, et puis que là, ça commence vraiment à aller crescendo dans les nouvelles naissances, etc., dans la croissance qualitative et quantitative de l'Église, c'est aussi ce qui a contribué à la croissance de l'Église. Dès Acte 8, la grande persécution qui survient à Jérusalem, dès Acte 8, les chrétiens sont dispersés par la persécution. Étant dispersés, ils redoublent de courage parce que Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance, la dunamis du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, juste aux extrémités de la terre. » Et Dieu se sert de l'ennemi qui lui souffle un vent de persécution en espérant éteindre le feu de la Pentecôte, mais au lieu de l'éteindre, il va disperser les flammes partout. Et du coup, c'est tout l'évangile qui se répand dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est bien dès le livre des Actes des Apôtres, avec la persécution, que l'Église va connaître une expansion quantitative hallucinante. Vous regardez aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Dans tous les pays où l'Église est tranquille, ah, on compte les miracles, on compte les conversions, on compte les nouvelles naissances, on compte les baptêmes, on compte. Mais eux, ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus les compter parce que c'est par dizaines, par centaines. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers qui sont effectivement en souterrain, mais bien réels, bien présents et bien vivants. Et c'est extraordinaire, merci Seigneur. Dans le pire, il fait le meilleur, et c'est pour ça que Jésus dit ici, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. » Et vous voyez cette propagation mondiale de l'évangile, même dans les terrains les plus difficiles, qui sont même, on peut le dire, spirituellement parlant, tellement oppressants qu'ils sont impossibles, eh bien c'est dans ces pays-là, merci Seigneur, que l'évangile gagne le plus de terrain. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Eh bien, je bénis Dieu et je veux prier pour pour tous nos bien-aimés dans ces pays. Je veux prier aussi pour la France, parce que bientôt c'est eux qui vont nous envoyer des missionnaires. Ne nous leurrons pas. Bientôt c'est eux, et il y en a déjà. Ils vont nous envoyer des missionnaires. Et avant que le Seigneur ne revienne, l'évangile aura été apporté à toutes les nations. Et malgré tous ces signes, séduction, guerre, famine, catastrophe, persécution, apostasie, etc., on s'aperçoit, ça c'est la puissance de la parole qui court avec vitesse, comme dit le psaume. Rien ne pourra jamais arrêter la propagation de la bonne nouvelle. Et malgré la multitude des douleurs qui sont présentes et qui s'accentueront encore, ne nous leurrons pas, Dieu ne sera jamais à court de témoins. Ici, là, 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 ailleurs, le Seigneur saura toujours susciter des hommes, des femmes qui seront remplis de son esprit, qui seront des témoins pour porter son évangile aux extrémités de la terre. Il est souverain, il est sur le trône, il règne, il est le maître de l'histoire avec un H majuscule et rien ne peut se passer, se produire sans que lui ne l'ait permis. Et tout restera toujours, jusqu'à la dernière seconde de l'histoire de l'humanité, sous son contrôle souverain, sous sa main toute puissante. Amen. Alors voilà quelques sujets de prière. Voilà, vous avez compris, les chrétiens de ces différents pays qui sont touchés par la guerre et ou la persécution, parce que parfois c'est les deux, et en réalité, ici, à peu de choses près, dans les pays que je cite, Israël, bande de Gaza, Syrie, Jordanie, Liban, Iran, Irak, Qatar, en réalité, il y a très souvent dans la majorité des pays les deux, guerre et persécution. On peut prier pour les envoyés, que ce soit de l'AEP, de Portes Ouvertes ou d'autres, qui sont régulièrement envoyés sur place, que le Seigneur les conduise, les protège, leur fasse grâce, qu'ils soient des bénédictions pour les frères et sœurs là-bas. On peut prier pour leurs besoins matériels, bien sûr, parce que du coup, les besoins sont nombreux. Ils sont confrontés à des situations matérielles qui sont extrêmement préoccupantes. Et puis, il y a des besoins spirituels. Le Seigneur, selon ce qu'on peut voir dans l'Écriture, par moments, protège dans le danger. Je peux prier pour qu'ils soient protégés dans le danger. Je peux prier pour leur délivrance parce que par moments ils sont miraculeusement arrachés au danger. Je peux aussi prier pour leur foi parce que le Seigneur a été clair. Certains succomberont, mais aussi leur fidélité dans l'épreuve, la foi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. La fidélité dans l'épreuve, la puissance du Saint-Esprit en eux, parce que sans la puissance de l'Esprit, c'est même pas la peine. Il y a une très très mauvaise question, frères et sœurs. Très mauvaise. Que nous nous posons tous, ou que des prédicateurs posent régulièrement, implicitement. Vous vous rendez compte? Si c'était nous, on ferait quoi? On ferait comment? Très mauvaise question. Parce que par nous-mêmes, comme nos frères et sœurs par eux-mêmes, personne n'est capable. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. Et voyez, frères et sœurs, la vraie question, je ne suis pas un prophète de malheur, la question, ce n'est pas est-ce que l'étau de la pression, de l'oppression et peut-être d'une forme de persécution va s'intensifier bientôt sur l'Occident. La question, ce n'est pas est-ce qu'on sera persécuté bientôt ou pas et comment on fera ou pas. Non, la question, c'est est-ce que l'Église de Jésus en France va être authentiquement remplie du Saint-Esprit. C'est ça la vraie question. Et c'est seulement comme ça que nos frères et sœurs tiennent, par la puissance de l'Esprit en eux. On peut prier pour leur témoignage, la croissance de l'Église, envers et contre tout, et puis aussi, bien évidemment, le salut de n'importe quel homme, de n'importe quelle autorité. Et on pense à la façon dont, oui, par moments ça n'arrive pas, mais par moments ça arrive, où tant de fois, des persécuteurs, des tyrans, des dictateurs, des fous furieux, comme Saul de Tarse, ont rencontré le Seigneur de façon miraculeuse. Amen. Ça vaut la peine de prier. Voilà, on se recueille, on prie ensemble. Frères, vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser les sujets de prière comme ça, ça peut aussi vous aider, vous bénir et vous inspirer. On a différents sujets, bien sûr, mais...